Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily d'opinion. Je suis comme d'habitude avec ce Charles Gave. On aime bien donner notre avis sur un petit peu tout, même si on n'est pas tout à fait compétent. On va
S'il n'y a que les
commencer.
compétents qui pouvaient parler, il y aurait un silence énorme qui régnerait partout, hein, c'est
C'est
sûr.
ça. Donc on va parler d'un premier sujet sur lequel j'espère vous êtes compétent, c'est vous-même. Puisque la semaine dernière, il y avait à peu près la moitié des rédactions de France qui faisaient des articles sur vous, sur le fait que vous avez fait un prêt pour l'association des amis d'Éric Zemmour, un prêt de 300 000 euros. Et donc tout le monde vous qualifiait de financier d'extrême droite. Qu'est-ce que vous répondez à ces rédactions?
Alors, la meilleure réponse est sans doute celle que j'ai faite ce lundi dans le papier hebdomadaire de l'Institut des Libertés, où j'essaye d'expliquer aux gens qui je suis dans la réalité. C'est-à-dire que je suis le produit de ma vie, de mon éducation, de l'histoire de ma famille, etc. Bon, ceux qui ont vraiment des problèmes d'insomnie peuvent aller me lire, ils verront un peu comment je m'explique, enfin qui je suis. Mon but est simplement d'être un petit peu ce qu'on appelait un honnête homme au 18e, c'est-à-dire quelqu'un qui essayait à la fin de sa vie d'avoir vaguement rendu à la société plus qu'il n'en avait tiré. Vous voyez ce que je veux dire, donc de laisser à mes enfants plus que ce que je n'avais reçu moi-même. Et je l'avais reçu beaucoup, donc c'était la tâche était élevée. Donc, grosso modo, je ne présente guère d'intérêt, mais par contre, ce qu'il y a de l'intéressant, c'est la façon dont les gens de l'extérieur me regardent. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut dire là. La première, si vous voulez, c'est que financier pour eux, un financier ne peut pas ne pas être véreux. Il ne peut pas y avoir un financier honnête, si vous voulez. Financier, ça veut dire que vous avez gagné de l'argent de façon
Malhonnête.
malhonnête. Donc, grosso modo, c'est à peu près du niveau intellectuel des gens qui, dans les années 30, vous traitez de juifs. Vous êtes, si vous voulez, le financier, c'est maintenant, comment on peut plus dire juif, on dit financier. Il y a donc un côté financier, quel est le rôle du financier? C'est dans le fond d'essayer d'indiquer à ses clients comment faire prospérer leur épargne dans le cadre de la loi. Ça n'a rien de malhonnête. C'est beaucoup moins malhonnête que d'être comme tous ces journalistes, d'être payé par l'État français parce que personne n'achète leurs journaux. Si vous voulez, 30% des gars qui m'ont accusé, enfin 30% de ces journaux, de leur chiffre d'affaires, vient des subventions étatiques. Donc, je me demande ce qui leur permet d'accuser les gens d'être malhonnêtes alors qu'eux-mêmes ne vivent que des subventions étatiques. Il me semble que là, il y a une légère contradiction. Celui qui a le droit de parler, c'est celui qui n'est pas payé par mes impôts. Les autres, ils devraient garder une sage retenue. Donc, ce sont des gens malhonnêtes. Ce sont des gens qui utilisent des mots sans savoir ce qu'ils veulent dire. Par exemple, ils me traitent de fasciste. Le fascisme, la définition du fascisme, c'est par Mussolini, c'est tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. Si vous voulez, toute la gauche a été fasciste depuis Mitterrand, puisque tout était pour l'État, tout était pour l'État, sauf quand ils en prenaient dans leur poche pour eux dans les comptes en Suisse. Mais ça, c'était pas du fascisme, c'était de la redistribution bien comprise. Donc, si vous voulez, fasciste, je ne le suis pas, je suis que pour l'État reste à sa place. D'extrême droite, je sais même pas ce que ça veut dire. Et le point le plus important, c'est que j'ai gagné mon argent aussi honnêtement que je l'ai pu. Très honnêtement, je n'ai jamais rien fait de malhonnête de ma vie, je crois pas, enfin j'espère que non. Et le truc le plus important, c'est que je fais ce que je veux de mon fric. Si je veux le donner à Zemmour, ça les regarde pas. C'est moi qui l'ai gagné, il est à moi, et j'ai pas à leur demander la permission à tous ces traîns de savates qui écrivent même pas un français compétent, convenable. Ils écrivent comme des cochons. Ils sont illettrés, ils sont incompétents, et ils viennent me donner des leçons de morale. Mais c'est comme si Judas allait expliquer à Saint-Pierre ce qu'il faut faire, quoi.
Ce qui m'a fasciné, c'est que c'était une information qui se mordait la queue. C'est-à-dire, ça faisait un petit peu, ah, regardez, Zemmour est financé par quelqu'un qui est proche de l'extrême droite. Et pourquoi il est proche de l'extrême droite? Bah, parce qu'il finance Zemmour. Je veux dire, bah, c'est un petit peu
Et en
léger
plus, ce qui
comme
m'a
raisonnement.
d'extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que ça avait dû être une dépêche de l'AFP, parce qu'ils reprenaient tous les mêmes termes.
Oui, absolument, oui.
C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui s'est donné la peine, et Dieu sait que j'ai écrit dans ma vie, que c'est disponible librement sur le net, puisque c'est une des choses auxquelles je tiens, qui pouvait lire tout ce que j'avais écrit, qui pouvait regarder mes interviews, qui pouvait se renseigner sur moi. Il n'y en a pas un qui s'est donné la peine de se renseigner sur moi, quoi.
Dans le jargon, on dit qu'ils ne sont pas au chômage.
Voilà, vous savez, c'est la vieille plaisanterie. Il y a deux sortes de journalistes, ceux qui sont au chômage et ceux qui travaillent, quoi. Et que les premiers sont malhonnêtes, sont honnêtes, et les deuxièmes ne le sont pas. Bon, ben voilà.
Ensuite, deuxième information, on a le pseudo-humoriste Gaëtan Matisse, qui, au détour d'une blague, apparemment c'était une blague, ça m'a pas fait rire, ça a pas fait rire grand monde, mais apparemment ça en était une, qui souhaitait en fait, s'il avait eu accès à une machine à remonter le temps, qui souhaitait mettre en place un meeting de Zemmour et de ses soutiens le 13 novembre 2015 au Bataclan.
Ce type devrait être mis contre un mur et fusillé. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas plaisanter. J'ai reçu ici le père d'une des victimes du Bataclan, qui a écrit des livres, etc., sur la souffrance qu'il ressent. Que cet imbécile de type, je ne sais pas qui c'est un crétin, s'amuse à faire des plaisanteries sur la souffrance d'un père. Il y a eu combien de victimes? 70, 80, 100. Des innocents qui ont été massacrés par des tueurs. Et qu'ils fassent des plaisanteries là-dessus en disant que c'est dommage qu'ils aient pas descendu Zemmour, ça prouve deux choses. Ça prouve d'abord que c'est un crétin, parce qu'on ne se moque pas de la souffrance des autres. Et deuxièmement, qu'ils souhaitent la mort de Zemmour. Et donc, du point de vue démocratique, Zemmour a le droit de parler, de dire ce qu'il pense. On a le droit de pas être d'accord avec lui. Mais de vouloir tuer quelqu'un en raison de ce qu'il a dit, c'est exactement ce que faisaient les nazis ou les communistes. Donc, ce type est un type qui devrait être fusillé, toutes affaires cessantes. Il mérite la mort. Je suis pas pour la peine de mort, mais en voilà un, si vous voulez, honnêtement, je suis scandalisé qu'on puisse s'amuser. L'idée même de faire une plaisanterie sur le Bataclan est odieuse. C'est révoltant.
Oui, l'idée de dire ça aurait dû être tel
quelqu'un
public
d'autre aurait
plutôt
été.
qu'un
Et
autre.
à ce moment-là, on aurait pardonné au couillon de musulman qui a fait ça. Parce qu'il avait tué Zemmour. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Mais c'est inimaginable.
Ouais, c'est scandaleux. Mais d'ailleurs, du coup, ce pseudo-humoriste qui du coup n'était pas du tout connu a été mis un petit peu dans la lumière à cette occasion.
Mais qui retourne dans l'ombre
Et
pour toujours.
oui, bah, j'y suis favorable aussi. Mais du coup, on a pu voir que en fait, c'était pas du tout une blague isolée, que c'était un petit peu un leitmotiv. Il avait fait une blague, enfin, il n'avait pas fait une blague, mais il disait que quelque part, Mila recevait ce qu'elle méritait par rapport à ce qu'elle avait dit. Donc, bah, là, juste retour de bâton. Même s'il n'a pas eu du tout les mêmes conséquences que Mila, qui elle était dans son bon droit d'ailleurs.
Et on a le droit de dire que la religion musulmane est une saloperie. Le crime de, comment on appelle ça, quand on dit du mal d'une religion, c'est le crime de blasphème a été aboli par la Convention française en 1793. Les pères de la République, Jules Ferry, etc., ne sont pas privés de dire des abominations sur l'Église catholique. Donc je ne vois pas au nom de quoi on m'empêcherait de dire du mal d'une religion qui, par exemple, consacre l'inégalité de l'homme et de la femme, ce qui pour moi est insupportable. Donc ce type est doublement un crétin. Sur Mila, donc, mais je voudrais savoir qui le paye. Est-ce qu'il est payé par une radio nationale?
Je crois qu'il a fait un petit peu de radio d'ailleurs avec ce
Est-ce qu'il est
cher
payé par France
Yacine
Inter?
Bellatar. Je crois pas qu'il en fasse encore, je sais pas exactement,
J'espère
mais il en a
que
fait.
j'espère qu'il n'est pas payé par une radio nationale, parce qu'avoir quelqu'un qui est payé par nos impôts pour dire des horreurs comme ça, si vous voulez, enfin, je sais pas, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire de blagues, quoi.
Oui, je suis un petit peu d'accord, surtout que là, la mémoire est encore assez fraîche, quoi. C'est pas, on parle pas de
Ben,
quelque chose qui a 500
les
ans.
parents des gens qui sont morts, ils étaient tous jeunes, ceux qui ont été tués, hein, sont encore de ce monde. Non, ce que je veux dire, c'est de la graine de gars qui se moquent des gens qui vont au goulag, quoi. Mais qui ont que ce qu'ils méritaient, c'est que c'est une abomination du début à la fin.
Et surtout, on sait très bien que cette blague ne serait absolument, absolument pas passée si on avait parlé d'un autre électorat, si on disait meeting d'Emmanuel Macron, etc. Là, on se dirait, c'est un public qui a des idées social-démocrates, etc. Je vois pas pourquoi on le
Oui, mais
tuerait.
quelle que soit la personne, serait-ce les personnes les plus odieuses, vous ne pouvez pas souhaiter la mort de quelqu'un pour ce qu'il a dit. C'est le début, c'est-à-dire ce gars-là, il aurait été un partisan farouche de Béria et du GPO, quoi. Il vous aurait envoyé tranquillement ce sont ces gens-là qui font, les petits médiocres, haineux et sans humour, qui semblent être ce gars-là, semblent être ceux qui font les massacres. C'est ceux qu'on retrouvait dans les camps. Les gars qui étaient dans les miradors, c'était lui.
Ouais, ça j'y crois volontiers. Ensuite, on ressort un petit peu de cet univers un peu triste. On va parler de la théorie de la primaire populaire à gauche. Ça, c'est pour le coup une vraie blague. Du coup, est-ce que vous pensez que le rassemblement est possible ou pas entre toutes ces gauches?
Mais je ne sais même pas ce que c'est, tous ces gens. Bon, je veux dire, j'essaie de regarder leurs idées. Elles sont toutes bizarres, mais elles sont pas toujours compatibles. Je sais pas, mais il me semble que entre les idées de Mélenchon, qui est partisan d'une certaine, qui se voudrait un petit peu chevènementiste de gauche, si vous voulez, de la souveraineté, et puis les idées des gens qui sont complètement écolos, qui pensent qu'il faut sauver la planète, qu'il nous faut un gouvernement mondial. Il peut pas y avoir de rapport. Donc, j'ai l'impression, autrefois, la gauche, on savait ce que c'était. Hein. C'était les gens qui défendaient le peuple. Aujourd'hui, ça fait depuis les années Mitterrand, 83 à peu près, que la gauche a trahi le peuple de façon abominable. Bon, la droite a trahi la nation, la gauche a trahi le peuple, je l'ai souvent dit ici. Donc, si vous mettez dans une seule case tous les gens qui ont trahi le peuple, bon, vous pouvez appeler ça la gauche. Mais qui va voter pour eux? C'est pas le peuple.
Bah, apparemment, toute la gauche additionnée ensemble ferait environ 25%. À mon avis, cependant, la politique et l'électoralisme, c'est pas une arithmétique aussi simple que « Ah ben, si on se met tous ensemble, on va faire 25%. » Il y aura forcément, par exemple, je pense que dans ce genre de primaire...
En regardant un petit peu, 8%, Mélenchon, et encore on est généreux. 5% le Parti Socialiste, et encore on est généreux. 5% les écolos, et encore on est généreux, et il reste 1% pour le Parti communiste, ça vous fait pas 25, si vous arrivez pas à 20.
Non, mais je crois que ça doit y avoir 7 et éventuellement 5 ou 6, et ensuite il y a quelques candidatures à 1 ou 2%.
Vous dire les trotskistes retardés, les...
C'est ça, parce qu'il y a le nouveau parti anticapitaliste, il y a Philippe Poutou, enfin bref, tout ça c'est des petits 1% additionnés. Il y a même Montebourg qui est dans le tas, 3-4%.
Mais vous ne pouvez pas me faire croire que quelqu'un peut voter pour Montebourg, qui voterait pour Montebourg, va voter pour les écolos.
Bien sûr.
Le type va aller voter pour je sais pas qui, mais certainement pas pour les écolos. Donc Montebourg, si vous voulez, c'est l'archétype du gars qui essaye encore de défendre la gauche. Il a 2% de voix, c'est déjà bien, quoi. Mais donc, si vous voulez, je veux dire, cette façon de dire « on est de gauche » parce qu'on décide qu'on est de gauche, donc on s'est mis un grand calicot sur la tête en disant « je suis de gauche » et donc on va tous voter les uns pour les autres, mais ils n'ont aucune idée commune. C'est comme de créer un mouvement, c'est comme d'emmener un troupeau de chats paître, si vous voulez, vous pouvez toujours brosser, ils vont partir dans tous les sens. Il n'y a aucun rapport entre tous ces groupes, donc c'est n'importe quoi, ça tient du mythe. Vous savez, on fait un exorcisme, on dit on va appeler la gauche, les ancêtres de la gauche, on va parler de Jaurès, allez. On va parler de Jaurès, on va se mettre sous la protection de Jaurès.
Jaurès, Blum, tout ça.
Blum, on va parler de Jaurès, on va parler de Blum, on va pas parler de Guy Mollet, mais je sais pas pourquoi, parce qu'il était bien, Guy Mollet. On va parler des gens comme ça, très important. On va parler de Mitterrand, qui était quand même décoré de la Francisque, et qui faisait mettre des bouquets sur la tombe de Pétain chaque année le 11 novembre. Donc, ça aussi, c'était un homme de gauche de qualité, quoi, si vous voulez. Ils n'ont rien en commun, ces gens-là. Donc, ils s'appellent la gauche. Mais ça veut rien dire.
Et en vrai, pour moi, ce genre de primaire, il n'y a rien de mieux pour mettre juste Emmanuel Macron à 35%. Parce qu'à mon avis, celui qui sortirait gagnant de ce genre de primaire, c'est Mélenchon. C'est celui qui a le plus de charisme et
les plus grosses troupes à l'heure actuelle.
C'est ça. Et du coup, il y aurait pas mal de gens trop modérés pour voter Mélenchon qui se dirigeraient du coup vers Emmanuel Macron, en fait.
Ou vers quelqu'un d'autre qui se mettrait à parler du peuple ou de la France. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une grosse partie de la gauche, ce qu'on oublie toujours, qui était extrêmement patriote.
Tout à fait, mais celle-là, soit elle est abstentionniste, soit elle est de droite maintenant, soit elle est cocu.
Oui, c'est pas. D'ailleurs, on peut être l'un et l'autre, hein, on peut être cocu et abstentionniste. C'est souvent ce qui se passe. Donc, la grande question, c'est est-ce que la gauche représente aujourd'hui le peuple?
Je
C'est
pense
pas le
pas.
cas.
Si on regarde
Et donc,
l'évolution du vote
quelle est
ouvrier.
leur légitimité s'ils ne représentent pas le peuple? S'ils représentent des. Allez, les professeurs de collège. Allez.
C'est une légitimité intellectuelle, c'est pas une
C'est-à-dire,
légitimité
ils
réelle.
utilisent le mot gauche pour se donner une légitimité démocratique en fonction de l'histoire de la France, alors qu'ils n'ont aucune légitimité pratique aujourd'hui. Personne ne se reconnaît en eux. Et donc vous mettez plein de gens en qui personne ne se reconnaît, et vous prétendez en faire un mouvement de masse. Si vous additionnez des zéros et des zéros, ça fait des zéros, ça fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même stupéfiant, cette espèce de façon de raisonner. C'est-à-dire, je ne représente rien, mais si on se met à 25, aucun d'entre nous ne représente rien, on va représenter quelque chose. Mais non! Vous êtes toujours un vide intellectuel total?
Donc quand même dans la plupart des sondages, le meilleur candidat de gauche, qui est souvent Mélenchon, arrive cinquième dans les scores. Il y a Emmanuel Macron, ensuite on a un rang serré entre Bertrand, Zemmour et Marine Le Pen, et ensuite arrive Mélenchon, quoi. Et ils sont vraiment très 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 loin.
Mais il ne parle plus de rien. Il parle pas des soucis des Français. Donc, je suis quand même surpris de voir la gauche qui est. Aujourd'hui, la gauche essaye de représenter les damnés de la Terre, c'est-à-dire les Palestiniens, par exemple. Mais très bien, hein, qui représentent les Palestiniens, j'ai rien contre, mais les Palestiniens votent pas en France.
Ouais, pas tout à l'heure, hier j'ai vu des affiches de Monsieur Poutou. Alors sur les affiches, il appelle à régulariser tous les étrangers, tous les immigrés. Il appelle à une égalité des droits en absolument tout pour les LGBT, etc. Enfin bref, à aucun moment il ne parle aux travailleurs, enfin, le vieux discours de gauche, quoi. Donc ils ont perdu tout cet électorat qui vote aujourd'hui massivement pour Marine Le Pen. On verra ce que ce sera
S'il se
en
transfère.
2022, s'il se transfère éventuellement peut-être une petite partie sur Zemmour quand même, à mon avis. Bon, enfin bref, cette gauche-là ne leur parle absolument plus.
Cette gauche-là n'a rien à dire. C'est simplement des perroquets dans une cage qui répètent des slogans qui existaient il y a 150 ans, quoi.
Je pense que la meilleure dans ce domaine, c'est peut-être Anne Hidalgo. Elle peut vraiment parler 10-15 minutes sans émettre une seule idée, quoi. C'est vraiment, à ce niveau-là, c'est chapeau.
Ce chapeau, elle doit avoir des spécialistes en communication remarquables.
La discipline politique aujourd'hui consiste en énoncer un maximum de mots et émettre un minimum d'idées.
Oui, et les mots qui chacun d'entre eux pris individuellement a une signification positive. C'est-à-dire, vous dites parler de démocratie. La démocratie, si vous faites aux gens, ils ont plutôt une idée positive de la démocratie. Et puis, vous pouvez rajouter pour être participative, de toute façon. Donc, à ce moment-là, c'est doublement positif. Et donc, vous avez toute cette espèce d'élan, d'échange, de mots qu'on met comme ça en chapelet, qui tous ont une connotation positive et mis ensemble ne veulent rien dire. Mais une fois qu'ils les ont dit, ils se sentent bien.
Oui, on parle de réduire les inégalités, de lutter contre le réchauffement climatique, etc. Enfin bref. De lutter même parfois pour le bonheur des gens, carrément.
Oui, non, mais dès qu'un politicien parle du bonheur des gens, je pense à la phrase de Bastiat. Faites que tout le monde obéisse aux lois et je m'occuperai de mon bonheur à moi. J'ai pas besoin que les politiciens s'occupent de mon bonheur, merci.
Mais alors justement, en réaction à cette hypothétique primaire dite populaire, je sais pas trop ce qu'elle aurait de populaire, mais bon, c'est l'intitulé. Marine Le Pen a été interrogée ce matin sur RTL par rapport au phénomène Zemmour. Donc la semaine dernière, le Rassemblement National avait une stratégie un petit peu bizarre, c'était de taper sur Zemmour avec des arguments de gauche, en disant mais vous avez vu ce qu'il dit sur Pétain, vous avez vu ce qu'il dit sur les femmes, etc. Bon, apparemment ils se sont un petit peu assagis et aujourd'hui ils parlent plus de rassemblement. Marine Le Pen a déclaré directement, nous serons amenés à un moment donné ou un autre à faire le rassemblement. Est-ce que vous voyez vraiment Marine Le Pen potentiellement céder sa place à Éric Zemmour si ce dernier est vraiment mieux placé qu'elle dans les sondages?
Ben, je crois que celui qui est aussi curieux que ça paraisse, qui prendra la décision, c'est pas moi, bien entendu. C'est pas Marine, c'est pas Zemmour, c'est peut-être Jean-Marie. Parce que si Jean-Marie dit, écoutez, on est en train de réussir quasiment le rassemblement des droites à laquelle, auquel j'ai travaillé toute ma vie, où la diabolisation dont j'ai été l'objet m'empêchait de faire ce que je voulais et tout, mais là, il semble qu'on puisse le faire, donc ben, je voterai pour Zemmour. S'il dit ça, Marine n'a plus aucune légitimité, parce que la petite légitimité qu'elle avait venait du courage de son père depuis 30 ou 40 ans. Donc, pour moi, celui qui va trancher le de Gordien, c'est Jean-Marie Le Pen. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire.
Très possible. Il peut y avoir éventuellement un tel afflux de militants et de cadres du parti vers Zemmour qu'elle se retrouverait vraiment
seule. À ce moment-là, Jean-Marie dira, bah, écoutez, votez.
Oui, c'est très possible. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen n'y croyait pas tellement au début.
Non, il disait à Zemmour de ne pas se présenter.
Tout à fait.
Et puis maintenant, il dit, bah, s'il est devant, je voterai pour lui.
Il y a un changement de discours de beaucoup de gens par rapport à ça.
Ben, il y a des tas de gens qui sont très surpris. Ça prouve simplement qu'il y avait une attente extraordinaire, comme on l'a souvent dit ici, pour une parole qui soit un peu vraie, qui soit sentie comme vraie par le public. Les gens ne pensent pas que Zemmour a raison, automatiquement, mais ils pensent qu'il dit ce qu'il pense. Et non pas qu'il emploie des mots préfabriqués pour éviter pour botter en touche et pas prendre des décisions. Donc, ils se disent, un, il a du courage, et deux, il dit ce qu'il pense, donc peut-être il prendra des décisions. Ça, peut-être pas les bonnes, mais au moins il prendra des décisions. On sortira de cette absence totale de décision où on s'enfonce, on dit non,
c'est ça, on sort du statu quo.
On sort de l'espèce de marais dans lequel intellectuel, dans lequel on est depuis 30 ans, à refuser de regarder les problèmes en face et à les traiter, quoi.
Tout à fait. Ensuite, il y a l'information absolument incroyable, tremblement de terre politique.
Chiel encore.
Édouard Philippe lance son parti Horizon, un parti de masse qui promet de réunir au moins 80% des Français, je pense.
Ah, c'est ce qu'il dit.
Je ne sais pas trop quel est le projet. Moi, je pense que ça va servir de succursale pour certains cadres, les Républicains qui voudraient rejoindre la majorité pour le nouveau quinquennat Macron. Mais vous, quel est votre avis là-dessus, si vous en avez un?
Bah, si vous voulez, la constitution de la 5e qui a été refaite et qui a été très mal refaite par Chirac avec ce truc à 5 ans, d'abord l'élection présidentielle, puis ensuite les élections législatives, fait que si on élit quelqu'un qui n'a pas de majorité législative, c'est immédiatement la cohabitation et le merding. Ouais, donc, Édouard Philippe, qui les a côtoyés de près, a dû côtoyer les gars de la République En Marche, là, le parti de Macron. Oui. Et se rendre compte que c'était tous des crétins absolus, quoi, ou des nuls, enfin, dans la grande majorité. Il doit y avoir un ou deux qui échappent qui sont passés par hasard. Et s'est dit, il faut donc préparer un parti qui sera, en quelque sorte, on refera le coup qu'on a fait pour la République En Marche, on le fera avec Horizon. C'est-à-dire qu'on mettra toute une série de bons à rien qui voteront pour Macron, qui seront des godillots, qui feront tout ce qu'on leur dit, qui permettront au président de l'Assemblée de continuer à être corrompu, etc. Bon. C'est un but qui est noble, mais je suis pas sûr qu'il va entraîner les foules, quoi.
Non, je pense que ça n'a pas vocation à être un parti de masse. Potentiellement, ça peut être sa structure à lui pour 2027, ce qui serait un minimum intelligent de sa part. Mais là, dans l'immédiat, je pense que c'est effectivement une stratégie pour les législatives, parce que même si Emmanuel Macron est réélu, il n'aura pas.
Il n'aura plus la République En Marche. Bayrou, il va se retrouver avec deux députés, quoi.
Ouais. Et il n'y aura pas le même élan qu'en 2017, ce qui a fait
qu'on y a cru. Il y a certaines personnes qui ont cru que Macron et ses troupes allaient apporter une bouffée de fraîcheur.
Oui, mais du coup, ça a quand même surmotivé ces troupes pour aller voter aux législatives. Du coup, il y a eu vraiment un raz-de-marée aux législatives pour
lui. Et surtout, il y a 50% des gens qui n'ont pas été votés.
Bah oui.
Donc, c'était pas qu'il a... Il y a les troupes de Macron qui ont été votées. Donc aujourd'hui, Macron gouverne avec à peu près 25% des Français derrière lui, quoi. Ce qui est quand même, du point de vue légitimité, l'égalité, il est légal, personne ne met ça en compte. Mais légitimité, il n'est pas légitime, c'est... C'est un homme qui n'a aucune légitimité.
Après, vu le morcellement du peuple français aujourd'hui, c'est difficile d'être vraiment légitime et de convaincre tout le monde.
Ben, il suffit pas de convaincre tout le monde, il suffirait simplement de convaincre 50 plus 1. Oui.
Mais 50 plus 1 du peuple, ça fait déjà du monde. En général...
C'est en principe le but ultime de la 5e République. Si personne n'arrive à 50 plus 1... La 5e République ne peut plus fonctionner.
Oui.
Donc c'est bientôt pour ça qu'elle ne fonctionne plus d'ailleurs. C'est depuis Quand on se retrouve avec Sarko, Hollande et Macron qui aucun n'est légitime, et ben, ce qui ne les empêche pas de faire des forfaitures comme d'annuler les résultats d'un référendum, et ben, le pays va bien, pas bien, quoi.
Mmh. Il faudrait...
Et je voudrais dire aussi quand même que Édouard Philippe a quand même une mémoire courte, et j'espère que les Français ne l'ont pas, parce que c'est quand même lui qui a créé les Gilets jaunes, c'est quand même lui qui a mis la vitesse à 80 km/h sans que personne ne lui demande rien. Si j'ose dire, ce cher homme a fait connerie sur connerie, quoi. Donc, qui se présente maintenant comme sauveur de la République et qui nous explique que nous avons un problème d'endettement monstrueux, alors que sa ville du Havre est endettée comme une folle, j'adore ces gars, ces professeurs de vertu qui ont fait le trottoir pendant 20 ans, si j'ose dire, et qui sont des vieilles prostituées. Donc, c'est ce qu'on dit dans l'Église, ce qu'on dit souvent dans l'Église catholique, c'est la jeune catin, vieille dévote. Enfin, je suis quand même surpris de voir monsieur Édouard Philippe dans le... Il s'appelle Édouard, d'ailleurs, non ? Édouard Philippe dans le rôle de la vieille dévote après avoir été une jeune catin, vous voyez ce que je veux dire ? Mais t'as été une prostituée, assume-le, mon grand !
Ouais.
Mais explique pas que maintenant que t'as été vertueux tout le temps. Ouais. Il prend pour un imbécile, ou quoi ?
C'est vrai qu'il nous donne des leçons maintenant sur la dette, alors qu'on était bien plus endetté lorsqu'il est parti du pouvoir que lorsqu'il en est arrivé.
Non, mais je vois pas exactement ce qui lui permet de donner des leçons de vertu, ne serait-ce que la ville dont il a été il a eu la charge, le Havre. Donc, mais de grâce, épargnez-moi, cachez ce sein que je ne saurais voir, quoi. On est gouverné par des gros hypocrites, Tartuffe.
Et enfin, on va parler de Zemmour, parce que,
Bon, on peut pas ne pas parler de Zemmour.
On peut pas ne pas parler de Zemmour, quoi. On n'en a pas suffisamment parlé, là, jusqu'ici. Y a un think tank, je crois, qui s'appelle La Droite pour la France, qui a fait un sondage chez les sympathisants, les Républicains, et qui est arrivé au résultat suivant. Donc, il demandait aux Républicains quel était leur candidat favori pour la primaire fermée à venir, le congrès fermé. Et ils incluaient dans le sondage ce cher Éric Zemmour, qui donc n'est pas prévu en l'espèce dans le prochain congrès, mais là, c'était donc dans l'hypothèse. Zemmour recueillerait donc 64% des votes des militants Les Républicains. Donc il gagnerait ce congrès au premier tour, avec un score digne d'un dictateur africain. Donc c'est assez fascinant. Barnier ensuite arriverait avec 17%. Voilà, bien joué. Et ensuite Bertrand Pécresse serait à 3%. Enfin voilà.
Il soulève les foules, cela.
Est-ce que, à votre avis, les cadres, les Républicains, savaient ça, et c'est exactement ce pourquoi ils ont interdit à Zemmour de se présenter dans leur congrès ?
Pour répondre à votre question, j'en sais foutre rien. Mais je voudrais répondre, comme l'a souvent en beau temps en touche, c'est que quand on a fait la ligne Maginot, il y a une série considérable d'officiers, de généraux, dont De Gaulle, qui ont dit que c'était une imbécilité foudroyante, qu'il ne fallait pas la faire. Le haut état-major de l'armée, à ce moment-là, les a tous mis sur la touche. Donc je crois que les cadres républicains à l'heure actuelle sont en train de préparer une campagne de juin 40 où le Parti républicain va se faire laminer et disparaître par incapacité totale de son commandement. Quand vous avez des crétins en commandement, en général, les batailles sont rarement gagnées, quoi. Donc ça fait, depuis les années Chirac, depuis que l'État finance les campagnes, et non plus les candidats eux-mêmes, ce qui se passe, c'est que c'est le président du parti qui distribue les enveloppes pour faire la campagne, vous savez, à chacun des candidats. Donc le président du parti depuis Chirac a toujours choisi les plus cons, ceux qui ne pouvaient pas lui faire d'ombre. Donc ça fait maintenant 3 ou 4 générations de candidats où chez les Républicains, on choisit les plus cons et les plus cons se retrouvent au sommet, ne serait-ce que par démographie. Donc je crois qu'il est grand temps que la comète Zemmour tombe sur la planète républicain et mette tous les diplodocus à mort, quoi. Que tous ces gars-là disparaissent, qu'on les voit plus, qu'on n'entende plus de parler de M. Bertrand, qu'on n'entende plus de parler de M. Barnier, que tous ces gars-là, de Jacob, tout ça, il est temps qu'ils prennent leur retraite, qu'ils s'en aillent et qu'on les voit plus. On leur en veut pas, ils ont juste été mauvais. on leur en veut pas. Mais jusqu'à quand ils vont nous pourrir la vie, quoi?
Bah justement, en plus par rapport au nouveau parti d'Edouard Philippe, là, ils vont pouvoir vraiment choisir leur camp, parce que je pense que
Mais ils peuvent pas, ils
là.
sont incapables, ils ont jamais choisi quoi que ce soit.
Oui, mais enfin. À la limite, Edouard Philippe, c'est l'espèce de centre-centre-droit auquel
C'est
beaucoup de cadres
Juppé.
aspirent. C'est la continuation du juppéisme.
Juppé, d'ailleurs, ils se ressemblent physiquement. Juppé, Fabius. À ma connaissance, Édouard Philippe n'a pas encore été condamné par une cour de justice, donc il n'a pas de, comment on appelle ça, de casier judiciaire. Tandis que Juppé et Fabius ont un casier judiciaire, ce qui leur permet de postuler au rôle de président du Conseil constitutionnel. Voilà une autre chose dont il faudra se débarrasser, toutes affaires cessantes, parce que le seul qui ait pouvoir constituant en France et de juger la Constitution, c'est le peuple. Donc qu'on mette un conseil constitutionnel, c'est une hérésie démocratique. Il ne peut pas y avoir de conseil constitutionnel en France.
Et donc, ces républicains, en fait, finalement, me font beaucoup penser à la situation de la gauche aussi, c'est-à-dire des gens qui se foutent sur la gueule dans une cabine téléphonique, ils sont à 15% grand maximum, et ils se foutent tous sur la gueule, alors qu'à côté, je pense qu'on a un bloc beaucoup plus homogène, idéologiquement, si on additionne Éric Zemmour et Marine Le Pen, je pense qu'on a 33% beaucoup plus homogène
Et
que les
puis toute une
15%.
partie, si j'ose dire, à droite du Parti républicain, que les républicains martyrisent depuis longtemps, qui va de Ciotti, à Pelletier, à tous ces gars-là, qui sont des gars qui pensent bien et qu'on a essayé de mettre sur le côté parce qu'ils avaient des idées, ce qui est quand même le crime numéro un, quoi. Je crois que l'immense erreur depuis Giscard, grosso modo, ça a été pour la droite de vouloir gouverner au centre. C'est au moins quand j'étais en Angleterre, Madame Thatcher, elle disait, je suis un gouvernement de conviction et non pas un gouvernement de consensus. Vous m'avez élu pour 5 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, dans 5 ans, à la fin de mon mandat, vous me virez. Mais je ne ferai pas ce que mes conseillers pensaient nécessaire pour que je sois réélu. Je ferai ce qui est bien pour le pays. Elle a été réélue 3 fois. Et tous les gars qui en France se donnent un mal de chien pour faire ce que leurs conseillers pensent que l'électorat attend, et ces gens-là ont tous une idée basse du peuple. Ils pensent que le peuple ne réagit qu'à des incitations matérielles, c'est-à-dire on augmente son niveau de vie ou je sais pas quoi. Ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le peuple, parfois, est le mieux à même de voter pour l'intérêt général. Moi, ça paraît curieux, mais fondamentalement, je dis ce que disait Bernanos, c'est qu'il y a une bourgeoisie de gauche, une bourgeoisie de droite. Il n'y a pas un peuple de gauche ou un peuple de droite, il y a un peuple de France. Et c'est toujours le peuple qui a sauvé la France, et jamais la bourgeoisie. Et aujourd'hui, les Républicains sont le parti de la bourgeoisie molle. Ce que j'appelle les pétainistes depuis même plus tard d'enfance.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est justement tout l'intérêt d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la droite se prend elle-même en otage. Il y a d'un côté le peuple, juste avec Marine Le Pen, mais le peuple tout seul ne peut pas gagner. Et il y a la bourgeoisie de droite qui, elle, est avec les Républicains, et eux non plus tout seuls, ils ne peuvent pas gagner. Et Zemmour réalise enfin l'alliance entre les deux qui leur avait été interdite jusqu'ici, et enfin, on se donne les moyens de gagner. Et
Voilà.
on s'enlève les
Donc,
menottes que la gauche nous a mis dans les
elle
années
m'a mise,
80.
et ça les rend fous. Et ce que j'ai déjà dit ici, et je le redis, c'est que Zemmour a réussi un truc extraordinaire. Il a repris le contrôle du logos, c'est-à-dire de la parole. C'est lui maintenant qui impose les thèmes. À partir du moment où vous contrôlez le logos, vous contrôlez le système politique. Et ça faisait 40 ans que le logos de gauche était prégnant, qu'on ne pouvait rien dire d'autre qu'en dehors du logos de gauche. Et maintenant, d'un seul coup, il y a un nouveau logos qui arrive et qui fait éclater en morceaux le logos de gauche. C'est miraculeux.
C'est absolument miraculeux, c'est énorme. On a l'impression que c'est
Et les
Macron.
gens respirent.
Oui, on respire enfin. On se dit, ah, on a le droit d'exister.
On a le droit de parler.
On a le droit de parler, on a le droit de penser, on a le droit d'écrire,
On a
on
le
a le
droit
droit de faire
d'exprimer ses
des.
idées.
Voilà. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est Macron qui est un petit peu le stagiaire de la campagne, parce que c'est lui qui est en train de suivre Zemmour sur ses thèmes, c'est lui qui réagit à Zemmour et non l'inverse.
Comme de dire du mal de l'Algérie d'un seul coup. Non, mais je t'en prie, d'où ça sort?
C'est ça, quand il parle de l'histoire des prénoms, enfin bref, c'est lui qui réagit à Zemmour, donc ça montre bien que c'est Zemmour qui impulse la campagne. D'ailleurs, il ne réagit qu'à Zemmour, ça veut bien dire il considère désormais que c'est son adversaire numéro un, et qu'ensuite on verra s'il y a d'autres dynamiques dans
Je
la
ne crois
campagne,
pas
mais...
une seconde, mais pas une seconde, qu'il y ait 25% des Français qui soient favorables à Macron aujourd'hui. Je ne le crois pas.
Moi, on en avait discuté un petit peu, j'avais dit que c'était pas un... Justement, c'était pas un vote de conviction comme avec Thatcher ou comme avec Zemmour. Hein. C'est vraiment un vote de sociologie. C'est un vote d'étudiants qui boivent des spritz et qui se posent pas vraiment beaucoup de questions et qui se disent bon bah Macron,
Ils n'auront pas
c'est
voté ça.
il y en a beaucoup qui n'iront pas voter. Tout à fait.
Ils n'iront pas voter. Donc, si vous voulez, il va faire 25% des voix des gens qui n'auront pas voté.
Tout à fait.
C'est bon. Ça va être intéressant comme résultat.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Emmanuel Macron aussi dans cette campagne va être un petit peu obligé de se positionner réellement par rapport à certaines choses, parce que jusqu'ici c'est le candidat du tout et du rien, de la droite et de la gauche et du centre et de partout et nulle part. Et ça, je ne le supporte plus. Il nous faut des candidats avec des convictions, donc il faut le forcer à se positionner sur certains sujets, et à partir du moment où il va se positionner, il va cliver et donc il va perdre des électeurs. Parce que lui, c'est un électorat du rassemblement. On essaye de, même si
Vous
on n'est
savez,
pas
c'est ce
d'accord,
que.
on dit pas ce qu'on pense, comme ça
On
on
fait,
se
on fâche
dispute pas.
personne.
Mais du coup, à l'arrivée, bah, le projet est vraiment nul,
Voilà, c'est ce que
dans le sens
disait.
où c'est
C'est ce que
zéro.
De Gaulle appelait ces gens-là, qui étaient les chrétiens démocrates à l'époque, il les appelait les fromages blancs. Parce que ça. Ça n'a aucune couleur, ça n'a aucun goût,
Ça n'a aucun goût, ouais.
ça fait glu, comme ça, c'est dégueulasse dans l'assiette. La seule chose qu'on peut faire, c'est quand on est dans le réfectoire et qu'on est gamin, c'est de l'envoyer sur le voile le gars d'à côté, quoi.
C'est ça.
Et au moins, on se marre.
Au moins, il se passe quelque
Au moins,
chose.
il se passe quelque chose. Donc, débarrassons-nous des fromages blancs. Je hais les tièdes, disait le Christ.
Tout à
Je
fait.
hais les tièdes.
Moi aussi, je vais les tièdes. Donc on se termine, à chaque fois on termine sur un bon message, donc haïssez les tièdes, ne soyez
Haïssez
pas
les
tièdes.
tièdes. Le temps n'est plus à la tiédeur, le temps est à la force.
Le temps est à la force, le temps est à la chaleur. Et donc à la semaine prochaine pour encore moins de tiédeur.